Palestine ici, Palestine là-bas. Mabrouk Lazreg au micro ce soir au sein de Radio Calade. Voilà, encore une fois, pour vous présenter l'actualité en Palestine. Donc, comment va se dérouler cette émission en plusieurs parties. Une sur l'actualité palestinienne, palestino-palestinienne, puisque récemment, il y a eu un opposant palestinien à la politique de l'autorité palestinienne du nom de Nizar Banat qui a été assassiné par l'autorité palestinienne. Donc j'en dirai un mot par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au sein de ce qui se passe en Palestine. Ensuite, on aura notre volet culturel comme à l'habitude. Et là, je voulais changer un peu. D'habitude, on a des musiques, des chansons qu'on écoute. Là, ça sera plutôt une lecture d'un poète du nom de Mahmoud Darwish, très connu en Palestine, qui nous a quittés il y a un peu plus de 10 ans. Donc, je ferai une lecture d'un poème et puis en même temps, deux mots, je lirai sa biographie. En troisième point, j'aborderai la question du boycott avec les évolutions et de bonnes nouvelles. Et je conclurai avec un point juridique sur la actualité dans les territoires palestiniens où un rapporteur de l'ONU fait de intéressantes déclarations, donc c'est bon à savoir. Donc sans plus tarder, je vais enclencher avec l'actualité palestinienne. Alors on n'a pas l'habitude d'aborder ce volet palestino-palestinien, donc je pensais que c'était intéressant de savoir un peu ce qui se passe au sein de la population palestinienne et surtout au sein de l'appareil de l'autorité palestinienne. Donc le papier que j'ai réussi à Non, qui m'a intéressé dans un premier temps, c'est d'un universitaire palestinien qui titre « Face à la gronde populaire, l'autorité palestinienne choisit la répression ». Depuis le décès de l'opposant Nizar Banat le 24 juin 2021, battu à mort par les forces de sécurité de l'autorité palestinienne, la Cisjordanie vit au rythme des manifestations demandant le départ du président Mahmoud Abbas. Déjà critiqué pour son immobilisme en mai 2021, l'autorité palestinienne n'est plus qu'un régime autoritaire arabe sans État, collaborant avec les autorités d'occupation. La mort de l'activiste Nizar Banat le 24 juin 2021, après son arrestation par les services de sécurité palestiniens, a suscité une vague de manifestations dans la rue palestinienne, réclamant le départ du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Ce meurtre, qui arrive après une tentative d'assassinat à laquelle Banat avait échappé quelques semaines plus tôt, a fait basculer les protestations du monde virtuel vers la rue. L'événement a été un catalyseur contre l'autorité palestinienne, mettant à nu son échec tant sur les plans social, économique que politique. De plus, les pratiques du gouvernement palestinien sont marquées depuis quelques années par des discours et des politiques sécuritaires, dont la violence est en contradiction flagrante avec les attentes des acteurs sur le terrain. En retour, les formes de résistance émanant d'une société palestinienne sous occupation ont également évolué. Les espaces sociaux palestiniens étaient principalement jusqu'à là un lieu d'expression contre le colonialisme israélien, mais le contexte des dernières années les a fait évoluer, notamment avec la division interne et la mise en place de deux autorités en conflit, l'autorité palestinienne en Cisjordanie et le Hamas dans la bande de Gaza. Depuis, ces espaces sociaux ne cessent d'être traversés par des affrontements sur des questions comme l'opposition aux négociations et à la coordination sécuritaire avec Israël, les arrestations politiques et les atteintes à la liberté d'expression et aux libertés publiques. Ces divergences croissantes marquent un fossé qui s'est creusé entre les politiques menées par les deux pouvoirs de Ramallah et de Gaza et une partie conséquente de la société palestinienne. Cet abîme apparaît également dans les politiques visant à contenir les protestations en les institutionnalisant et en les récupérant à travers l'apparition de nouvelles formes de censure, afin de monopoliser ces espaces sociaux et de les occuper avec les discours et les pratiques des appareils du pouvoir. Ces tentatives de contrôle et de récupération s'inscrivent dans une conception officielle de ce que doit être la représentation palestinienne, imposée comme la seule voie à même de susciter une quelconque solidarité mondiale. À cela, il faut ajouter une neutralisation de la confrontation avec la politique coloniale israélienne et la réduction du combat palestinien à son aspect juridique et symbolique. Or, depuis le début de la pandémie de la Covid-19, les scandales et les protestations contre les politiques de l'autorité palestinienne se succèdent. Pour contenir leur propagation, le gouvernement a eu recours au confinement, à un durcissement sécuritaire et à des discours moralisateurs. Mais la pandémie a mis à nu la fragilité des structures sanitaires palestiniennes. L'arrivée des doses de vaccins était tardive et la campagne de vaccination a été entachée d'accusations de népotisme et de clientélisme. Nizar Banat avait d'ailleurs critiqué dans de nombreuses de ses publications sur les réseaux sociaux le transfert des vaccins entre l'autorité palestinienne et Israël. Après une tentative d'assassinat à son encontre, ordre a été donné de l'arrêter. Le pouvoir confisqué. Certes, la protestation contre les politiques de l'autorité palestinienne ne sont pas nouvelles. La rue palestinienne a connu depuis 2011 des dizaines de manifestations. Mobilisation de certains corps de métier, enseignants, médecins du secteur public, ou manifestations politiques, opposition aux sanctions contre Gaza, à la coordination sécuritaire avec Israël, aux guerres contre Gaza et opposition de l'autorité palestinienne, ou contestation sociale contre la loi sur la sécurité sociale en 2019. Au cours de ces mouvements, les manifestants se sont heurtés aux forces de sécurité. Mais la mobilisation actuelle s'inscrit dans un contexte différent. D'abord, elle survient après la mort des élections. D'abord, elle survient après, le report des élections qui devaient se tenir en 2021, marqué par un accaparement du pouvoir au sein du Fatah et de l'Organisation de libération de la Palestine et la montée des politiques d'exclusion et de répression contre les voix discordantes. Le chef de l'autorité et ses proches ont désormais le monopole des décisions politiques, marginalisant celle du Conseil central de l'OLP, qui a appelé à revoir les accords d'Oslo et leurs conséquences, notamment la coordination sécuritaire et les accords économiques avec Israël. Au cours des préparatifs des dernières élections, des courants d'opposition ont vu le jour au sein du Fatah. De nouvelles structures politiques ont émergé, dont certains à caractère régionaliste, ainsi que des candidats jusqu'à là inconnus. On a vu également l'émergence d'acteurs dont les discours se sont focalisés sur la réforme intérieure et la lutte contre la corruption et le népotisme. Les divisions transcendaient. Ensuite, et après de longues années de protestations limitées, de luttes individuelles, ainsi que de faibles participations dans les manifestations, les grands mouvements populaires sont de retour. Les luttes quotidiennes dans le quartier de Sheikh Jarrah, à Silwan et à la porte de Damas, ont suscité une solidarité croissante avec les habitants de Jérusalem. Ces mobilisations ont eu pour conséquence l'élargissement des protestations qui se sont étendues à la Cisjordanie et aussi parmi les Palestiniens d'Israël. De nouveaux acteurs sont entrés en laïcité, pour la plupart des jeunes porteurs d'un langage militant inédit. Cette résistance a réhabilité la protestation collective organisée, transcendant ainsi la fragmentation coloniale. Jamais, en effet, depuis des décennies, les Palestiniens ne se sont ainsi unis dans des formes de protestation organisées comme en mai 2021. La question palestinienne est redevenue une cause universelle. Des événements sur le terrain ou en ligne ont été organisés de manière simultanée dans la bande de Gaza, à Jérusalem, en Cisjordanie et à l'intérieur du territoire israélien. Transcendant la géographie, les classes sociales et les générations, ce mouvement a restauré la cohésion du peuple palestinien entre l'intérieur et l'extérieur. Celui-ci constate que l'administration coloniale use des mêmes pratiques d'arrestation et d'assassinat à l'intérieur d'Israël comme dans les territoires occupés, confirmant la permanence de la Nakba et de ses conséquences à ce jour. Au milieu de ce tableau, de nombreux jeunes constatent la position de spectateurs de l'autorité palestinienne, dont la popularité est désormais à son plus bas niveau. Ils critiquent également le courant dominant au sein du Fatah, dont les décisions ne servent qu'à maintenir le statu quo. Celle-ci continue à promouvoir le discours de la négociation, de la solution des deux États et la menace du recours à la Cour pénale internationale. Et à empêcher tout affrontement avec les soldats israéliens afin de préserver le projet national, ouvrez les guillemets, afin de préserver le projet national palestinien, lequel projet se limite à l'attentisme et à l'absence de la moindre action sur le terrain. Tout cela malgré l'échec de la solution des deux États, l'accélération de la colonisation en Cisjordanie et la permanence de la division entre le Fatah et le Hamas, une situation aggravée par l'extension du népotisme et du clientélisme et la propagation de la corruption que dénoncent les groupes qui protestent dans la rue. Avatar de l'autoritarisme arabe. La mobilisation qui se poursuit depuis le 25 juin fait face à une répression sans précédent de la part de l'autorité palestinienne. Selon plusieurs organisations palestiniennes des droits humains, les manifestations étaient brutalement brutalement agressé à coups de bâton et de matraque et aspergé de gaz poivre. Ils ont été traînés par terre, des dizaines ont été arrêtés. Des avocats et des journalistes ont été poursuivis. Plusieurs militants et personnalités connues du champ culturel et universitaire ont été agressés, de même que d'anciens détenus, dont un grand nombre venaient tout juste de sortir des prisons israéliennes. Les organisations de droits humains ont également documenté des cas de torture et d'atteinte à la dignité dans les sous-sols des postes de police. Selon les témoignages de manifestants largement diffusés sur les réseaux sociaux et dans les médias, des groupes affiliés au Fatah ont harcelé des jeunes filles participant à la protestation. Leurs téléphones ont été cassés et volés et leurs images diffusées. Des groupes étudiants proches du Fatah ont également agressé leurs camarades qui participaient aux manifestations. La symbolique de certaines scènes de répression était particulièrement frappante, comme les pierres lancées par des agents des services de sécurité sur les manifestants. La scène rappelait aux Palestiniens les violences exercées par des soldats israéliens contre les habitants du village de Salim, près de Naplouse, dans les années 90. Ces pratiques rappellent également celles de certains régimes arabes autoritaires qui font appel aux Baltagia. Alors, pour rappeler qu'est-ce que c'est les Baltagia, c'était les milices égyptiennes, quand il y avait les grandes révolutions arabes en 2011, qui frappaient les manifestants. Pour réprimer les manifestants, ces derniers sont accusés de faire le jeu d'intérêts étrangers et leurs revendications se nouent au milieu des slogans en faveur du parti au pouvoir. Ici, la défense du Fatah se double de celle du projet national palestinien et de la lutte contre la division. Le 26 juin, l'autorité palestinienne a mobilisé à son tour plusieurs factions du Fatah, ainsi que des éléments des services de sécurité en tenue civile en organisant une manifestation à Ramallah, sans intervention policière. L'idée est ainsi d'occuper la rue pour en chasser physiquement les manifestants qui appellent au départ du président Mahmoud Abbas. Un fossé qui se creuse. Ces mouvements vont-ils se poursuivre ? La société civile, les organisations de défense des droits humains et les associations culturelles ont toutes condamné l'assassinat de l'opposant Banat. De nouvelles manifestations ont eu lieu un peu partout en Cisjordanie le 11 juillet à l'appel d'organisations étudiantes, de mouvements de jeunes et d'associations féministes. Elles pourraient s'étendre si la répression s'aggrave et si les attaques contre les libertés publiques, la liberté d'expression et d'opinion, le droit à l'opposition, le droit de manifester et le droit de manifester et de protester se poursuivent. L'autorité palestinienne récolte les échecs les uns après les autres, jour après jour. Le fossé se creuse entre elle et de larges segments de la population. La mise en place d'une commission d'enquête sur la mort de Nizar Banat, les déclarations garantissant la liberté de la presse et condamnant tout recours à la répression n'ont pas convaincu grand monde. Aucune volonté de changement ne transparaît sur le plan politique. Rien ne se profile à l'horizon pour changer la manière du gouvernement palestinien de gérer la lutte contre la colonisation ou œuvrer à mettre fin à la division interpalestinienne. Voilà, c'était pour vous donner un peu un éclairage sur ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur de la Palestine et puis des divisions internes et surtout le comportement de l'autorité palestinienne qu'on nous vante aujourd'hui comme un interlocuteur par excellence. Donc voilà. Sans plus tarder, on va passer au volet culturel. Je vous laisse écouter le poème de Mahmoud Darwish et puis on se retrouve. À plus.
لا تنس قوت الحمام وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك لا تنس من يطلبون السلام وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك لا تنسى شعب الخيام وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك ثمة من لم يجد حيزا للمنام وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك خذ
تقول ليتني شمعة في الظلام.
Palestine ici, Palestine là-bas. Voilà, alors après avoir écouté quelques vers du poète palestinien Mahmoud Darwish, je vais vous en donner la traduction. Donc le titre du poème, c'est « Pense aux autres ». Pense aux autres quand tu prépares ton petit déjeuner. Pense aux autres. N'oublie pas le grain aux colombes. Quand tu mènes la guerre, non, plutôt, quand tu mènes tes guerres, pense aux autres. N'oublie pas ceux qui réclament la paix. Quand tu règles la facture d'eau, pense aux autres. Qui tête les nuages. Quand tu rentres à la maison, ta maison, pense aux autres. N'oublie pas le peuple des tentes. Quand tu comptes les étoiles pour dormir, pense aux autres. Certains n'ont pas le loisir de rêver. Quand tu te libères par la métonymie, pense aux autres qui ont perdu le droit à la parole. Quand tu penses aux autres au lointain, pense à toi. Dis-toi que suis-je une bougie dans le noir. Voilà quelques vers du poème du grand poète palestinien Mahmoud Darwish. Alors pour vous dire en deux mots qui était Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish, né le 13 mars 1941 à Biroa, en Palestine sous mandat britannique. Et il est mort le 9 août 2008 à Houston, au Texas, aux États-Unis. Il est une des figures de proue de la poésie palestinienne. Il est le président de l'Union des écrivains palestiniens et publié plus de 20 volumes de poésie, 7 livres en prose et en est rédacteur de plusieurs publications comme Al Jadid, Le Nouveau, Al Fajr, L'Aube, Shu'un al-Falestinia, Les Affaires palestiniennes et Al Carmel. Il est reconnu internationalement pour sa poésie qui se concentre sur sa nostalgie de la patrie perdue. Ses œuvres lui valent de multiples récompenses et il est publié dans au moins 22 langues. Il est connu pour son engagement au sein de l'Organisation de la Libération de la Palestine, élu membre du comité exécutif de l'OLP en 1987. Il quitte l'organisation en 1993 pour protester contre les accords d'Oslo. Après plus de 30 ans de vie en exil, il peut rentrer sous condition en Palestine. Et bon, après quelques années plus tard, il mourra. Voilà, ça c'était notre comment dirais-je, volet culturel. Et là, je vais passer au volet juridique. Alors, le volet juridique, c'est un rapport qui a été plutôt un expert de l'ONU. Qui titre « Les colonies israéliennes constituent des crimes de guerre », selon un expert de l'ONU. Michael Link, le rapporteur canadien de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, estime qu'il est temps de faire comprendre à Israël que son occupation illégale et son mépris du droit international et de l'opinion internationale ne peut plus être gratuit. Le mot est lâché. Le rapporteur de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés a demandé vendredi 9 juillet que les colonies israéliennes soient classées comme des crimes de guerre. Présentant son dernier rapport au Conseil des droits de l'homme à Genève, en Suisse, Michael Link a affirmé que les colonies israéliennes de peuplement en territoire palestinien, constituaient une violation de l'interdiction absolue de l'implantation de colons. La communauté internationale a qualifié cette pratique de crime de guerre lorsqu'elle a adopté le statut de Rome en 1998, a-t-il fait valoir dans un communiqué de presse. Michael Link, qui est mandaté par le Conseil des droits de l'homme, mais n'exprime pas au nom des Nations Unies, a appelé la communauté internationale à évaluer les nombreuses mesures possibles pour demander des comptes à Israël, que cela soit au niveau diplomatique ou juridique. Une colonisation accélérée ces dernières années. Il est temps, a-t-il dit, de faire comprendre à Israël que son occupation illégale et son mépris du droit international et de l'opinion internationale ne peuvent plus être gratuits. Israël, qui ne reconnaît pas le mandat de Michael Link et ne lui a jamais accordé l'accès au territoire palestinien, n'a pas assisté au débat. L'expert, qui est de nationalité canadienne, a souligné que de nombreuses résolutions de l'ONU ont qualifié d'illégale la colonisation dans les territoires palestiniens. La Cisjordanie est un territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël et toutes les colonies israéliennes qui s'y trouvent sont considérées illégales au regard du droit international. La colonisation israélienne dans les territoires palestiniens a connu un vif essor ces dernières années sous l'impulsion de l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou et depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Voilà, ça c'était pour dire que les choses évoluent. De plus en plus, des langues se délient au niveau diplomatique et c'est des bonnes nouvelles. Alors, dans le cadre aussi de bonnes nouvelles, sur la question du boycott, il y a eu dernièrement un gros fonds de pension de Norvège, intitulé KLP, qui exclut 16 sociétés de ses placements à cause de leur lien avec les colonies israéliennes en Cisjordanie. Ce fonds de pension a abandonné celles qui profitent des colonies à cause d'un risque inacceptable qu'elles contribuent à des violations des droits de l'homme. Ce désinvestissement est particulièrement significatif, pas seulement à cause de son ampleur, mais aussi parce que KLP a puisé dans la base de données de l'ONU des sociétés impliquées dans les colonies israéliennes. KLP a dit qu'il avait vendu des parts pour plus de 31 millions de dollars dans les sociétés exclues. Dans ces sociétés, on trouve les plus grosses banques d'Israël, les sociétés de télécommunications, BESEC, Cellcom Israël et Partenaires Communications, et plusieurs entreprises de construction. Notamment, Partenaires Communications a été la filiale israélienne de la multinationale française Orange. Cependant, Orange a coupé ses liens avec Partenaires en 2016 à la suite d'une campagne de militants en Égypte et d'autres pays à cause de l'implication de Partenaires dans les colonies et de son soutien à l'agression israélienne de 2014 sur Gaza. Auparavant, KLP avait exclu Elbit Systems et l'entreprise allemande de matériaux de construction Heidelberg Cement. Christy Hoffmann, secrétaire général du syndicat mondial UNI, syndicat international qui représente 20 millions de travailleurs et a fait campagne sur la question, a applaudi à l'action de KLP. Les investisseurs ne devraient pas profiter de violations des droits de l'homme comme la confiscation illégale et la colonisation de la terre palestinienne, a dit Hoffmann. Le Comité national palestinien de boycott, désinvestissement et sanctions a exhorté d'autres investisseurs à suivre l'exemple de KLP. Un risque inacceptable. KLP gère plus de 70 milliards de dollars d'actifs pour le secteur public. Il s'engage à respecter des principes d'investissement éthique et à respecter les droits de l'homme. Les colonies de peuplement israéliennes sur une terre occupée sont illégales selon le droit international et constituent un crime de guerre. C'est pourquoi KLP a conclu qu'il y avait un risque inacceptable que cela puisse contribuer à la violation par Israël des droits fondamentaux des Palestiniens s'ils restaient impliqués dans des sociétés qui avaient des liens avec les colonies. Dans une déclaration expliquant son processus, KLP a souligné l'impact négatif des colonies sur les Palestiniens, dont la perte de biens et de moyens de subsistance, un accès restreint aux services et des menaces sur leur intégrité physique. La complexité des systèmes israéliens de contrôle physique et bureaucratique limite encore plus la liberté de circulation des Palestiniens, ajoute le fonds de pension. KLP a mis en parallèle ses investissements et la base de données de l'ONU qui liste 112 sociétés impliquées dans les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem-Est. KLP a découvert qu'il détenait des parts dans 26 de ces sociétés. Il a alors évalué si les colonies pouvaient se maintenir sans les produits ou services fournis par ces sociétés. Finalement, KLP a exclu 16 de ces 26 sociétés après avoir découvert que leurs services étaient essentiels au maintien des colonies. Trois d'entre elles sont des entreprises de construction et d'ingénierie, dont la française Alstom, impliquée dans la construction du tramway de Jérusalem, qui relie des colonies illégales entre elles et à Jérusalem. Les banques israéliennes, Apolline, Lemi, First International, Israel Discount Bank, Mizrahi Tefaot ont été exclus pour leur contribution directe au développement, à l'expansion et au maintien des colonies et de leur activité. Vendre Motorola Solutions a été une décision tout à fait évidente pour KLP, puisque ses systèmes et logiciels de sécurité vidéo servent à la surveillance des Palestiniens, a rappelé Reuters. Dans le secteur des télécommunications, le fonds de pension a également abandonné Altice Europe, basé aux Pays-Bas, ainsi que trois entreprises israéliennes. Quand KLP a découvert que la fourniture de services de communication faisait des colonies des zones résidentielles attractives, KLP a exclu trois sociétés israéliennes d'énergie qui fournissent de l'énergie et du carburant utile aux colonies. Le fonds de pension norvégien dit qu'il avait contacté toutes les sociétés, mais une seule avait fait preuve de quelque volonté de s'engager dans un dialogue et aucune n'a démontré qu'elle n'avait des systèmes en place pour réduire le risque de futures violations des normes. Fonds pétrolier norvégien. En mai, le fonds de pension du gouvernement pour l'international, également connu comme le fonds pétrolier norvégien, a annoncé l'exclusion des entreprises israéliennes Safir Engineering and Industry et Mivin Real Estate. Le fonds pétrolier a dit que les investissements entraînaient un risque inacceptable, que les sociétés contribuent aux violations systématiques des droits des individus dans les situations de guerre ou de conflit. En juin, KLP a suivi l'exemple du fonds pétrolier en excluant les deux entreprises. Mivin possède et loue de la propriété commerciale dans des zones industrielles liées aux colonies en Cisjordanie. Safir construit en Cisjordanie, y compris des maisons dans les colonies. Donc voilà, il y a le cas écossais, mais bon, c'est toujours bien. Mais bon, j'ai dit le plus gros sur le fonds de pension norvégien qu'on peut saluer et qui a fait un acte de héroïque, si on peut dire ça comme ça, et que les Palestiniens ont remercié et ont salué. Voilà, et je pense que beaucoup de grandes entreprises ou de fonds de pension suivront l'exemple pour justement affaiblir la politique coloniale et d'apartheid d'Israël. Voilà, notre émission touche à sa fin. On aura l'occasion de se revoir, si tout va bien, en septembre, pour reprendre l'émission. Alors, en deux mots, voilà. Ou un invité que j'inviterai à mon émission pour parler d'un sujet bien, bien précis, ou ce sera moi qui viendra, et puis je vous relaterai l'actualité de ce qui se passe en Palestine, ici ou là-bas, ou carrément des victoires et des succès. Voilà, c'était Palestine ici, Palestine là-bas. J'ai été heureux d'être avec vous tout le long de cette année. Et puis, on se revoit en septembre pour parler de la Palestine, en bien, j'espère. À plus. Babon Klazrek au micro.